Boum, on se retrouve sur un bateau, sur une soubette flottilla avec Jérémy Chevalet. Merci pour nous embarquer un petit moment alors que vous vous rapprochez de plus en plus de Gaza. Bienvenue, Jérémy.
Avec plaisir. Merci pour l'invitation.
Bon, alors la première question, c'est est-ce que tu peux nous faire un statut là? Comment se passe la situation? J'avoue que ce matin, quand je me suis levé, je m'attendais à trouver des vidéos de votre arrestation. Et puis, c'est avec émotion que bah, j'ai vu que ce n'était pas le cas pour l'instant et que vous vous rapprochez. Et ça m'a, très honnêtement, ça m'a ému parce que là, vous vous rapprochez de ce peuple meurtri. Et c'est incroyable. Vous avez déjà, vous êtes avancé, vous êtes peut-être allé plus loin que ceux d'avant. Est-ce que tu peux faire un point de situation?
Toujours au nord international. Là où se commande toute la flottille. Vraiment penser qu'ils allaient se faire intercepter, tout le monde en allô, en pensant que ça allait être le moment. Et puis en fait, non, ils ont brouillé les communications, ils ont brouillé les GPS. Et ensuite, ils ont passé au bateau numéro 2. Ils ont fait la même chose. Donc ouais, on a pensé pendant un instant que notre avion s'arrêtait là. Et puis finalement,
Alors, la connexion n'est pas formidable, mais on s'y attendait un petit peu. Vous fonctionnez au satellite, j'imagine. Et puis, évidemment, je pense que du brouillage, il doit y en avoir, puisque bah, Israël est aussi connu pour ça. Et bah, j'espère que, en tout cas, on entendra ta voix mieux que ça. L'image, c'est pas dramatique, mais ça devrait revenir. Mais là, tu es figé. Donc, si j'entends bien, tu dis qu'il y a eu de l'intimidation donc cette nuit. On pensait que c'était fini, mais du coup, les téléphones, vous en avez des rechanges parce que comment vous continuez à communiquer une fois que, enfin, toi, t'as pas jeté le tien, mais.
pas venu vers. On a vraiment ordre quand on est sûr qu'on va se faire intercepter. Et donc, autour de notre bateau, il y avait personne. Donc, on était prêt à les jeter, mais on l'a pas fait. C'était pas.
D'accord, mais en fait, pourquoi l'ordre de, si on peut aller dans les détails, on a un petit moment ensemble, pourquoi jeter les téléphones? Parce qu'il pourrait y avoir des informations qui pourraient être utilisées contre vous, le cas échéant, si vous vous y arrêtez avec.
Les détails, je ne suis pas sûr, mais on n'a effectivement pas envie qu'ils retrouvent tous nos moyens de communication internes qu'ils puissent remonter dans nos conversations pour nous mettre la pression une fois qu'on sera en Israël, etc. Donc, c'est un ordre qu'on n'est pas obligé de respecter, mais c'est fortement recommandé pour notre sécurité.
Alors, je t'ai entendu dire quand on sera incarcéré en Israël, pour vous, c'est une, enfin pour toi et l'équipe, c'est une certitude que vous allez être bloqué, arrêté, ou tu as un espoir de pouvoir finalement arriver à vos fins, mais peut-être tu peux aussi expliquer, hein, le but, l'objectif de briser ce blocus et puis d'ouvrir une voie humanitaire, littéralement, pour que, à la suite de vos 50 bateaux et plus, il y ait 500, 5000 nouveaux convois qui s'organisent et qui puissent amener une réelle aide.
Enfin, c'est sûr que ça, c'est le but. Et c'est un espoir qu'on a depuis le début et qui est vraiment ancré. On dit toujours on va arriver à Gaza et on espère qu'on a au moins un sur arriver jusqu'à Gaza. Mais Israël a bien fait comprendre qu'il laisserait passer absolument aucun bateau, sous aucun prétexte. Et c'est fait pour leur armée de laisser passer un bateau civil. Je pense qu'ils vont vraiment mettre tout en œuvre pour nous empêcher de passer. Dans la Grèce, ils nous ont bombardés avec des drones, avec des substances chimiques. Donc, je pense qu'ils sont prêts à pas grand-chose pour maintenir leur blocus jusqu'au bout.
Oui, étant donné qu'ils sont prêts à tout pour génocider, évidemment, on peut comprendre qu'ils ne sont pas à ça prêts. C'est sûr que le plus plausible, c'est que vous fassiez arrêter, bien entendu. Mais moi, j'ai quand même un espoir que
pareil.
Je regardais tout à l'heure et par exemple, il y a une vidéo live sur X où on voit donc les caméras de plusieurs bateaux. Là, il y a le Uga, l'Estrella, le Wahoo, le Paula 1 et puis d'autres. Et figure-toi que c'est en live et qu'il y a maintenant plus de 740 000 personnes qui regardent en direct et ça ne cesse d'augmenter depuis ce matin. Je pense que d'ici 2 ou 3 heures, on risque d'arriver à 1 million de personnes qui regardent simplement ces caméras qui pointent à l'horizon. Et là, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre d'historique. Il y a quelque chose qui se passe, peu importe le résultat de vous passez ou vous passez pas, mais 1 million d'yeux, parce qu'ils sont certainement sur d'autres, ces lives sur d'autres plateformes. Je sais que sur YouTube, il y a une quinzaine de milliers de personnes qui regardent. Donc, à mon avis, il y a à peu près 1 million c'était All Eyes on Gaza, All Eyes on Flotilla. Il y a à peu près 1 million de personnes qui, en direct, d'une certaine manière, symboliquement, est avec toi, est avec vous sur ces bateaux. Et moi, je pense qu'il se passe quelque chose d'historique. Alors, peut-être que vous êtes un peu coupé du monde, mais est-ce que vous sentez quelque chose? Comment vous communiquez les uns avec les autres? C'est quoi un peu l'ambiance?
On sent effectivement qu'il y a un gros soutien citoyen. On espère avoir un plus gros soutien étatique. Parce qu'au final, c'est quand même eux qui ont le pouvoir d'arrêter ce génocide. Mais pour l'instant, ils ont quand même nous intercepter et ils ont encore, je ne sais pas si c'était hier ou aujourd'hui, mais j'ai lu qu'ils ont falsifié des documents en disant qu'ils avaient trouvé des documents officiels du Hamas dans la bande de Gaza. Comme quoi, ils avaient été là. Bon, voilà. La propagande est...
Ah, ça, c'est sûr.
Ils ont vraiment... C'est notre âge. À Mali, avec Chypre, etc., avec nous-mêmes aussi pour qu'on l'aide et qu'on fasse demi-tour et puis qu'ensuite eux-mêmes achèmineraient cette aide. Donc c'est difficile à savoir. Moi je ne suis pas sur X, donc je n'avais pas vu qu'il y avait autant de personnes qui regardaient ce live. Je réfléchirai à 2 fois avant de me curer la prochaine fois, mais, mais ce matin j'ai vu qu'effectivement sur YouTube il y avait 15 000 spectateurs et. Je sais pas trop comment ça se passe au niveau des vidéos, mais je sais que cette nuit, le grand début, donc, on est sur le live. Je sais pas si ça tourne ou voilà, mais. Et avec l'attaque qu'il y a eu cette nuit, les gens, ils se sentent concernés, quoi.
Bien sûr.
On est leurs frères, leurs fils, leurs parents. Ici, plein de gens ont des enfants. Il y a une personne sur mon bateau qui. Sa femme devrait accoucher bientôt. Donc,
Magnifique. Il y a peut-être un truc qui n'est pas très clair pour moi, c'est la répartition de vos bateaux. Ce matin, il y a 2-3 heures en arrière, il y a un des bateaux qui avait dit qu'ils étaient à quelques heures de Gaza, sous-entendu à 4 heures de Gaza, et que du coup, ils pourraient arriver aujourd'hui. Et sur d'autres plateformes, j'ai entendu que ce serait plutôt demain, mais il y a certainement des bateaux qui sont plus près que ceux derrière. Est-ce que tu as des informations sur la répartition de votre flottille, ou est-ce que vous êtes à bloc, et puis en fait, ce sera autrement?
Bloc. On se tend un peu, mais la nuit, on prend.
D'accord, les 50 bateaux donc. De vitesse à laquelle on Ça veut
va, ça
dire
représente
quoi ça en
25
plan?
heures. Ouais, environ
D'accord.
25 heures de navigation à vitesse actuelle. Tous les bateaux font pas la même taille, donc ce, pourrait clairement aller plus vite, mais on est plutôt, et, donc on a une vitesse de 5 nœuds qui est maman. Et à cette vitesse-là, on y sera bah, demain matin à Gaza.
D'accord, ouais. Ok, ben, j'espère qu'en tout cas le nombre de gens qui regardent va ne cesser d'augmenter. Ça semble être le cas. On arrive presque à 750 000 sur X. Alors, toi, tu as une place particulière puisque tu as des compétences dans les bateaux. Il ne pourrait pas se passer, hein. D'après ce que j'ai compris, tu es donc mécanicien. Tu répares notamment les moteurs. Je crois qu'il y a passablement de déboires, peut-être aussi dû au fait que ben, c'était un projet citoyen qui, des fois, utilise des plans B, C, D, E, qui s'organise avec un peu du bric-broc. Hein, donc, vous avez dû trouver des bateaux qui n'étaient pas toujours en parfait état. Est-ce que tu peux un petit peu parler de ces aspects techniques, hein?
Ouais, bien sûr. Ben, le mouvement, il s'est monté en extrêmement peu de temps. Je pense que c'est un mouvement qui aurait dû nécessiter un an de préparation pour pouvoir faire ça. Donc, tous les flottes ont été achetées sur un mois, plus que 50. Malheureusement, il y a certains bateaux qui étaient en trop. Un mois. C'est fort un peu compliqué de contrôler tous les articles. Et ça, qu'on a fait les deux premières semaines, c'est parti de la flotte qui partait de Sicile. Tous les bateaux, on a hiérarchisé les problèmes, parti en plusieurs teams. Donc, on avait la team de la team mécanique. Matériel de sécurité, donc les gilets de sauvetage, etc., pour essayer de vraiment préparer le mieux possible à Gaza. Donc, pas mal de Internet qui tourne en permanence, on a une caméra de surveillance qui, évidemment, tout le monde est sur son téléphone toute la journée, donc il faut recharger tous ses téléphones. Donc, ça fait
Ouais.
qu'on consomme pas mal d'électricité et certains de ces bateaux ont 40 ans, donc ils ne sont pas faits pour. On a rajouté des batteries, des panneaux solaires, il faut contrôler les alternateurs, etc. Et pas tout le monde a des compétences techniques, ce qui veut dire que ben, de temps en temps, quelqu'un il oublie de tourner en switch et donc en fait les batteries elles se vident et après ils arrivent plus à démarrer leur moteur. Il y a une partie qui a le facteur humain et l'âge des installations. Des bricolages qui ont été faits par les propriétaires propriétaire précédent. Donc c'était quelques semaines intenses et en vrai on a fait quoi? On a fait un beau boulot et puis sur le nombre de bateaux qu'on est, on n'a pas tant de problèmes que ça, mais c'est vrai que on n'est pas non plus beaucoup à avoir des vraies des vraies compétences techniques. Donc on saute pas mal d'un bateau à l'autre. Sensible au mal de mer une fois que je suis en intérieur en fonction de un peu donc c'est pas toujours facile d'aller dépanner et de devoir rester 2 heures à réfléchir sur un problème et puis de se pencher à gauche d'avoir la tête en bas etc. C'est voilà, c'est un défi quoi.
Ça c'est sûr, on s'invente pas marin et pourtant je crois que vous êtes je sais pas combien de nationalités mais c'est assez large et ouais. C'est vraiment une belle leçon d'humanité. Ça ne m'étonne pas que les gens se connectent à vous, parce que d'une certaine manière, en tout cas c'est mon cas, je sens qu'il y a quelque chose de plus grand qui me dépasse, et rien que le fait de se sentir lié aux parties prenantes de près ou de loin à ce que vous faites, ça amène un réconfort, ça amène de l'espoir et de l'humanité, donc beaucoup de gratitude pour... En tout cas, pour ce que tu fais, pour ce que vous faites, c'est vraiment important, je crois. C'est vraiment nécessaire aussi, évidemment.
Ouais, je crois qu'on a aussi beaucoup d'attentes qui nous viennent de Gaza.
J'ai vu des vidéos aussi.
On voit souvent des vidéos et tout ça. Et puis, on a une journaliste italienne à bord qui a pu faire un appel vidéo avec une femme qui est à Gaza City. Et... son père tient un hôpital là-bas et ils ont refusé de partir jusqu'à la fin. Et c'est elle qui nous demande tous les matins comment est-ce qu'on va, est-ce qu'on avance, qu'une fois qu'on sera à Gaza, on sera bienvenu chez elle. Donc, il y a une grosse attente de là-bas. Et puis, je pense que c'est important aussi pour eux de savoir qu'ils n'ont pas été abandonnés.
Ouais, c'est ça. Et c'est ce qu'ils me disaient les Palestiniens quand j'ai participé à la Global March au Caire, c'est que leur plus grande souffrance c'était l'effacement, d'être oublié en fait. Et ce que vous faites, ça m'étonne pas qu'ils répondent comme tu viens de le dire. Et du coup, c'est assez facile de savoir, j'imagine. Mais il peut y avoir des doutes, mais dis-moi, est-ce que tu remets en question ta présence sur ce bateau ou voilà, comment tu fais face aussi à la peur, parce que c'est pas simple et le but c'est pas de focaliser sur nous, hein, c'est pas ça que je dis, mais je trouve aussi intéressant, moi par exemple, le mal de mer m'a découragé parce que j'ai un peu une phobie de ça aussi. Voilà, donc ça c'est peut-être un point qui peut être intéressant. Comment on fait pour, je dirais, vivre avec cette épée de Damoclès que Israël fait peser évidemment sur les Palestiniens tous les jours, mais sur votre projet ou sur notre projet?
Bah déjà, pour, concernant ma participation à la fin, j'ai douté juste que être là, est-ce que en fait il n'y avait pas de pied au niveau navigation, etc. Parce que voilà, ouais. Je suis un peu de voile sur le lac, mais en pleine mer comme ça, loin des côtes, j'ai aucune idée. Et j'ai jamais été vraiment confronté à plus de mal de mer que ça. Le plus long que j'ai fait sur un voilier, c'était 2 jours. Donc, c'est voilà, je me demandais si vraiment j'avais ma place. Plus le temps passait, plus on résolvait des problèmes et plus Et jusqu'au dernier jour, ils nous ont dit, toutes les personnes qui sont là, vous n'avez pas une place garantie. Que on ne sert pas de qui que soit en de donc, les principes, c'est sûr. Et je me suis dit, qu'en fait, pour cette mission, je suis là pour les Palestiniens, pour les Gazaouis. Et donc, si déjà j'ai pu amener une petite brique sur cet édifice, je suis content. Et finalement, j'ai eu une place sur un des bateaux. Et en fait, je suis très content d'être là. Et plus le temps avance et plus je suis déterminé. Et avant de partir, ben ouais, j'avais une petite appréhension de qu'est-ce qui allait m'arriver. J'avais presque un peu plus peur de la mer que d'Israël. Mais plus on avance et plus je suis déterminé. J'ai senti ça chez beaucoup de gens quand on. Personne qui les navires parce que c'était quand qui tremblait et je me suis j'arrive pas à dormir, j'ai trop d'adrénaline et je me dis que tous ces gens à Gaza ils ont ça depuis 2 ans et ont beaucoup plus fort et ils ont perdu des proches et de réfléchir et je me suis dit mais en fait vraiment je suis content d'être là et j'ai envie d'aller jusqu'au bout et j'ai aujourd'hui Et si je peux aller jusqu'à Gaza, j'irai jusqu'à Gaza. Je crois que c'est ce qui me fait le plus peur, d'être attaqué par l'armée israélienne, parce que je pense que humainement, ça va être très difficile. Mais ouais, j'irai jusqu'au bout de là où me mène mon bateau.
Alors là, je vois que il y a 497 participants de 46 pays qui participent, à mon avis, directement ou indirectement aux activités de la petite. Donc ça fait 500 personnes, c'est énorme comme projet. Pour dire que ça s'est organisé en si peu de temps et de manière si globale aussi. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant de voir que le monde est aussi capable de créer, pas toujours de se faire la guerre. Et en cela, c'est aussi un signe d'espoir. Enfin, j'ai toujours eu l'impression que cette cause palestinienne, elle dépassait la Palestine aussi, elle permet ça. Et ça, c'est très impressionnant. Et j'allais dire, comment vous avez interprété, vous continuez d'interpréter, la pseudo-aide des gouvernements. Donc, on a vu l'Italie. L'Italie, moi, j'ai bien compris qu'elle avait peur, Meloni, parce qu'il y a eu une grève très impressionnante en Italie. Et puis, du coup, elle a dû faire quelque chose. Elle n'a pas su trop quoi faire. Elle a envoyé un bateau. À mon avis, c'était vraiment une erreur stratégique parce que, du coup, l'Espagne a suivi. Et puis, en fait, c'était évidemment une manipulation pour essayer, à mon avis, de se préserver de l'opinion publique. Et puis, ces bateaux, dis-moi si je me trompe, mais hier, ils ont fait demi-tour et puis ils vous ont demandé de faire la même chose. Donc, au final, ils se sont clairement, encore une fois, alignés avec les fascistes génocidaires israéliens. Et quant à l'Espagne, je ne sais pas, tu pourras peut-être me dire quelle est la situation avec les bateaux. J'entends dire aussi qu'il y avait des drones et des bateaux turcs. Moi, j'attendais un peu une réaction turque aussi, parce que Erdogan, c'est du blablabla, mais il n'y a rien en termes d'actes, à mon sens. Mais là, il y a quand même l'envoi de drones. Est-ce que, du coup, il y a peut-être une petite protection un peu symbolique de la Turquie qui dit, bah, on regarde quand même ce qui se passe. Alors, forcément, on ne va pas intervenir, mais au moins, on aura les yeux sur ce qui se passe. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Comment vous en parlez et quelle est vraiment la situation?
Oh, c'est un peu compliqué, on a un peu tous nos avis différents sur la question, et puis en fonction de l'évolution des choses aussi, notre regard il change. À bord, on a aussi des Turcs, donc ils étaient très très fiers de voir que la Turquie envoie des drones et puis des bateaux. Donc ouais, c'est compliqué. Pour moi, l'Italie, effectivement, c'était juste un espèce de. Voilà, on va essayer de calmer un peu notre population. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un sabot. Demander à tous les bateaux s'il y a quelqu'un qui veut faire demi-tour alors qu'on est à un jour et demi de Gaza. Pas du sabotage. Pour c'est quand même un pays qui c'est le pays sur les armes. Et n'empêche que voilà, ils ont fait d'autres j'imagine éviter un incident diplomatique. Donc je sais pas trop quoi penser de tout ça. Pour moi, c'était à la base bienvenu, mais en même temps, on est quand même un mouvement non violent. Et donc en fait, de faire route avec des bateaux militaires. Qu'on était donc en fait, il n'y a pas de raison et que c'était nos risques étaient terribles. Enfin, pour moi, c'est grand de leur part et puis ici dans Palestine, c'est pas une surprise.
Non.
Mais ouais, pour ces bateaux, je sais pas. C'est
D'accord. Vous les voyez quand même? Ou pas? Les drones, les bateaux, vous les voyez?
Les bateaux, on les a vus, ouais. On les a vus, mais sans savoir quel bateau était à quel pays. On a vu quelques bateaux militaires il y a 2 jours. On a vu aussi les bateaux des gardes-côtes et les bateaux militaires grecs pendant qu'on réparait les dégâts en Crète. Mais pendant la navigation, ils sont assez loin, donc on les voit pas. C'est juste que là, on s'est arrêté une fois pour régler des problèmes techniques. Et le courant a fait qu'on s'est retrouvé proche des bateaux militaires, j'en sais rien. Mais sinon, non, ils restaient hors de notre vue. Et puis
Okay.
pour les drones, franchement, c'est impossible de
Oui, il y en
savoir
a tellement, je pense.
qu'est-ce qui est quoi. Il y a des dizaines de drones qui nous survolent toutes les nuits. On ne sait jamais si c'est des gardes-côtes, si c'est l'armée israélienne, si c'est. Enfin, franchement, c'est compliqué. Et puis on avait à peu près réussi à définir qu'il y avait 2 types de drones. Pendant l'attaque, il y avait les drones de surveillance et puis vraiment les drones qui venaient larguer les bombes sur les bateaux. Donc ça, on arrivait plus ou moins à les repérer et à les différencier.
Ouais, la connexion est plus très bonne de temps en temps, mais ma foi, ça fait. Non, mais ça
Aïe.
va, ma foi, ça fait partie du paysage. On pouvait s'y attendre aussi, les gens comprendront évidemment. Je suis certain qu'effectivement, cette flottille met la honte à absolument tous les gouvernements occidentaux, puisque ben voilà, ils sont lâches, ils ne font rien, et puis mais c'est même hallucinant, c'est-à-dire que. Même l'idée de mettre une flottille pour venir vous secourir. C'est complètement fou quand tu y penses. Vous secourir de quoi? Vous secourir de violation du droit international. Donc nous, on fera rien, mais si vous faites couler, oh, on viendra peut-être vous repêcher. Enfin, je veux dire, on en est où pour en arriver là? Et les Italiens m'ont impressionné récemment, et les dockers, notamment de Gênes, ont dit, et moi je pense que c'est crédible. Que si vous faites arrêter, il y aura des conséquences graves sur le fonctionnement, je dirais, habituel en Europe. Et c'est bien, j'espère que les gens se réveillent. Je crois que cette nuit, pour la première fois, en Italie aussi, les dockers ont bloqué un navire israélien qui n'avait pas de matériel de guerre. Donc normalement, c'était toujours lié à l'armée, aux armes, aux marchands d'armes. Mais là, c'était simplement parce qu'il était israélien. Donc on voit que tous les jours, j'ai l'impression, la colère monte et les actions se font de plus en plus décisives. Du coup, je pense qu'il serait mal avisé aussi des gouvernements de ne rien faire ou de continuer à dire qu'ils font sans rien faire, au risque de prendre des retours de bâton. Et c'est normal. Et encore un cadeau des Palestiniens, c'est de nous montrer, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais l'innocuité, l'incompétence et la misère de nos gouvernements respectifs qui prétendent avoir des valeurs, de vivre sur un état de droit, de respecter la loi et le droit international, alors que quand il est complètement, je dirais, piétiné, eh bien, on se fait discret, on ne dit plus rien. Enfin, je veux dire, c'est aussi.
On reconnaît la Palestine.
Voilà. On reconnaît, ouais, on reconnaît la Palestine. Ah, ça, d'ailleurs, vous en avez pensé quoi, la reconnaissance de la Palestine? Ouais, surtout que maintenant qu'elle est quasiment certainement rasée de toutes parts et inexistante, qu'il n'y a plus rien à reconnaître, on la reconnaît, on ne sait pas très bien sur quelles frontières, on ne sait pas très bien quel droit. On leur dit qu'ils sont souverains, mais en fin de compte, on leur dit que ça sera sans le Hamas, sans armes, et puis que sans l'autorité aussi de Cisjordanie. Donc, en gros, qu'on va décider à leur place. Mais on la reconnaît, hein, par contre, on la reconnaît bien. On sait pas, c'est vraiment une blague, quoi. Et vous en discutez, tout ça, il y a... Ouais, c'est clair.
On en discute. Avec
Sont très politisés, évidemment, j'imagine.
on a même une députée qui est là et qui a informé directement Lula qu'elle était sur un bateau pour la flottille. Donc oui, il y a des gens très politisés. Il y a aussi Rima Hassan. Il y a une députée. Donc, voilà, bateau, on voit la reconnaissance de la paix, mais en fait, c'est épuisant et c'est beaucoup trop vraiment juste de laver les mains ou de tenter de se.
Ouais, c'est ça. Absolument.
Je vois perdre la connexion.
Oui, je t'entends. Alors, des fois, effectivement, il y a des mots qui sautent et puis il faut se concentrer un peu pour tout attraper. Mais ça va, je crois que dans l'ensemble, on se comprend. Puis le but, c'est aussi de faire un petit bout de voyage avec toi. On a plus de 90 personnes en direct, 90 pour les Français. et puis voilà. Donc, oui, je disais, par rapport à ces gouvernements, qu'est-ce qu'on attendrait d'eux? C'est-à-dire qu'ils soient diplomatiquement beaucoup plus incisifs, mais aussi, par exemple, la Suisse, parce que ben, là, on est sur une chaîne suisse, toi, tu es suisse. Comment as-tu interpellé les autorités? Enfin, comment ça se passe? On sait que la Suisse, dans cette affaire, et surtout avec Ignacio Cassis, est totalement lâche, voire même contraire à ces bonnes pratiques, ou à ces pratiques, parce que bon, je ne sais pas, habituelles, ce qui fait qu'il y a aussi des schismes au sein même du DFAE, le département des affaires étrangères. Voilà, qu'est-ce que de ton côté bah, tu en penses et comment ça, voilà, comment tu te positionnes?
Oh, j'ai des idées assez radicales pour moi. Ignacio Cassis, il devrait démissionner déjà. Mais je ne sais pas
Non.
si c'est toujours le cas, mais il était président d'une association des amis d'Israël ou un truc comme ça. Donc forcément, il n'est pas neutre là-dedans. Et je trouve que la Suisse, elle pourrait faire plein de choses. Ils ont prévu d'acheter des trônes israéliens pour je ne sais pas combien de milliards de francs. Première chose à faire, c'est de résilier ce contrat. Et puis de nous apporter officiellement un soutien diplomatique. Parce que là, je crois qu'il commence à dire que oui, peut-être. Mais là, je commence. Beaucoup parce que comme ça les arrange. Courage, soit face à Israël ou que ce soit même face à Trump, hein, avec les droits de douane, ils vont juste courber les Chines. Et je trouve ça dommage. Moi, ça me rend triste en fait que tous ces gouvernements ils fassent rien du tout et que ce soit les citoyens qui soient obligés d'aller leur zone petit ou d'aller payer pour faire des blocus. Je sais pas. Pour moi, je.
C'est fou. Ouais,
ça me fait de voir l'étendue
Oui, absolument. Et il faut le rappeler, et le redire, que vous êtes en territoire international, en eau internationale, et que dès lors, vous avez évidemment le droit de naviguer. À aucun moment, vous allez entrer en territoire israélien. Donc, au niveau légal, il n'y a absolument rien à redire. Il n'y a même pas de question. Et pourtant, on voit des gouvernements, les Suisses en tête, ces lâches, qui vont à reculons, vous demandent de ne pas aller là-bas, vous menacent presque en disant que vous n'aurez pas de protection diplomatique. C'est effarant. Puis en même temps, pour ceux qui observent depuis un petit moment, c'est pas si étonnant que ça. Je veux dire, on sait la puissance des lobbies de l'argent et des intérêts qui entre eux se protègent. Donc, mais je me demande si légalement il n'y aurait pas un moyen même de les attaquer, parce que d'une certaine manière, la Suisse met une cible dans ton dos, c'est-à-dire à toi, ressortissant helvétique aussi, quoi. Alors qu'elle devrait faire le contraire, c'est-à-dire t'amener une protection, comme à tous ces citoyens et à tout pays.
Bon, en fait, ici, ils peuvent être mis en place, hein, parce que ben, d'une part, ce qu'ils font, c'est des actes de piraterie, et d'une autre part, chaque bateau ici a un pavillon d'un pays européen. Et donc en fait, en droit international, un bateau qui a un pavillon d'un pays, c'est comme. C'est comme s'il faisait partie du territoire. C'est comme une île mais qui fait partie du territoire. Donc, ça veut dire qu'Israël qui bombe un bateau anglais, ben, en fait, il a bombardé l'Angleterre. C'est juste qu'il y a trop d'intérêts économiques derrière. Ils font qu'ils osent rien faire et qu'on se retrouve plus ou moins tout seul. Quand je dis tout seul, je parle pas que de la flotte.
Clairement pas. Même le contraire, vous avez la pression supplémentaire des États. C'est vraiment le monde à l'envers à ce niveau-là. Il y a une personne qui demande. Vas-y.
Non, vas-y.
Une personne qui demandait s'il y avait des ressortissants palestiniens dans la flottille. Moi, j'avais entendu que c'était trop dangereux pour tout le monde, pour eux et pour vous, puisqu'on a quand même un camp qui fait un génocide, ça veut dire qu'il ne s'arrête à rien pour annihiler une nation, un peuple, une culture. Est-ce que je me trompe ou y a-t-il des Palestiniens directement dans la flottille?
Alors, je crois que c'est juste. Il me semble avoir parlé avec quelqu'un qui me disait que les Palestiniens ont été refusés d'embarquer sur les bateaux pour raison de sécurité. Mais par contre, sauf erreur, Rima Hassan, elle est franco-palestinienne. En tout cas, elle est d'origine palestinienne. Je ne sais même pas si les Palestiniens ils ont un passeport en vrai. Mais elle est d'origine palestinienne, elle a le passeport français. Elle est sur un des bateaux. Elle était déjà sur un des bateaux. L'année dernière, je crois que c'était sur le Madeleine, sauf erreur.
Oui.
Elle a pas vraiment en prison et elle y retourne.
C'est vrai. Elle a un courage incroyable, cette femme, c'est fou. Une énergie est magnifique, mais aussi parce que, effectivement, il y a des liens, il y a des racines, et c'est bien ça le fond du problème, c'est qu'on essaye de coloniser ou de déraciner un peuple qui appartient à une terre, les Palestiniens. Et en ce sens, forcément, on n'y arrivera pas. Enfin, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils n'y arriveront pas. Et c'est bien que bah, tu te lies à cette belle cause et que tant d'entre nous le fassent. Ça, c'est l'espoir que j'ai, que de plus en plus de monde s'y joigne, quoi, tout simplement.
Petit qui nous suit, ils sont partis de Sicile. Beaucoup nombreux, mais on continue de tenter. Et puis, je sais que ceux qui ont dû faire demi-tour chez nous ou ceux qui n'ont pas pu partir parce qu'ils n'étaient pas prêts, ils sont en train d'être préparés et ils font partie d'une prochaine flottille. Donc, ça ne s'arrêtera pas. On n'oubliera pas les Palestiniens. Il y a beaucoup de bateaux ici qui ont été renommés au prénom d'enfants assassinés à Gaza. Il y a sur un bateau, ils ont écrit plein de prénoms d'enfants assassinés à Gaza. Justement, pas que c'est lié. Ouais,
est-ce que tu peux. Ouais, c'est ça. Comment vous coordonnez entre vous? Vous communiquez, j'imagine, avec les mêmes canaux. Alors, il ne faut pas tous les dire, parce qu'il y a probablement des choses qu'on ne veut pas partager à public. Mais quelles sont les relations que vous avez entre les bateaux?
Bah ça dépend. En fait, moi, quand je suis arrivé, je connaissais personne. Et je me suis lié d'amitié avec des gens que j'ai rencontrés dans l'avion, que j'ai rencontrés à des apéros avant de commencer à préparer les bateaux, et avec des gens à qui j'ai travaillé pendant les réparations de bateaux. Et des gens avec qui on a créé des liens assez forts, ce qui fait qu'on essaie de naviguer ensemble. De temps en temps, on passe à côté, on se lance une orange, on discute. Voilà. Quand on est en shift ensemble, hein, on prend la radio, on s'appelle. Donc, on garde des liens, c'est assez cool. C'est vraiment très humain comme milieu. Et ouais, franchement, j'ai vraiment rencontré que des belles personnes. Et ça fait chaud au cœur de voir ces gens et de voir qu'ils sont là. Il y a des gens, ils ont perdu leur travail. Il y a
ça fait quand même un mois. Vous êtes loin, quoi.
Ouais, ça fait un mois. Moi, je pensais être déjà rentré, hein, en vrai.
C'est clair.
J'ai de la chance d'avoir des employeurs et des collègues flexibles, oui. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Non, donc voilà. Après, aussi d'une certaine manière, c'est un petit sacrifice par rapport à ce que vivent les Palestiniens, encore une fois. Mais reste qu'il faut le faire. Et puis j'admire tous ces gens qui ont tout lâché et qui sont partis et qui sont encore là aujourd'hui. Et il y a aussi des gens qui sont sur le terrain, qui sont disponibles sur 4 et pour un travail incroyable et vraiment n'importe quel jour dans les... Ils doivent avoir des serres mais
c'est clair. Alors, j'ai vu par rapport aux oranges, tu as posté une petite vidéo où vous lancez des oranges. Celui qui essaye de l'attraper attrape l'orange, mais son téléphone tombe dans l'eau. Alors, moi, de nouveau, je reviens à ça, mais vous devez avoir une grande réserve de téléphone, hein, parce que c'est. J'imagine que moi, si j'étais monté sur un bateau, je n'aurais pas pris mon dernier smartphone, le dernier cri, mais peut-être une petite réserve de vieux téléphones qui font bien l'affaire.
Non, c'est clair. La personne qui a fait tomber son téléphone, je pense que certains le connaissent parce que c'est une des personnes de Rage Kit.
De quoi,
Donc, je ne sais pas si c'est le téléphone de Rage Kit. Rage Kit font des vidéos. Et donc, je ne sais pas si c'est un des téléphones qu'ils utilisaient pour filmer. Mais ouais, c'est problématique. Après, moi, j'en suis personnellement à mon troisième téléphone. Je savais que j'allais devoir jeter à la mer et en fait après même pas une semaine je l'ai perdu pendant que j'étais en train de grimper sur un mât. Donc j'ai dû aller m'acheter mais attends, on a justement un téléphone pour toi parce que quelqu'un pour... pour un des participants, mais finalement, il part pas. Donc, tiens, prends celui-là. Donc, voilà, j'en suis à mon troisième téléphone. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Et j'avais un autre téléphone qu'on m'avait prêté en attendant que finalement, j'ai passé à un autre bateau parce qu'il avait fait tomber son téléphone dans l'eau. Il y a un espèce de marché des téléphones ici au sein de la flottille. C'est assez marrant.
Oui. J'allais dire, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne s'invente pas marin et puis c'est tout un apprentissage avec un quotidien fait de plein de petites embûches, c'est ça le chemin. Et j'avais envie de dire, pour soutenir ça, pour ceux qui restent, je dirais, sur la terre ferme, le financement, l'argent et tout ça, tu sais d'où ça vient. Je sais que pour la délégation suisse, il y a l'association donc, du docteur Hicham Elgaoui, je crois que c'est Wave of Freedom.
Waves of Freedom, c'est ça.
De ce point de vue-là, ben, ils ont levé des fonds et je pense qu'ils continuent à le faire. Après, est-ce que toi, tu as dû mettre de l'argent de ta poche? Est-ce qu'on peut aider? Enfin, vous appelez à quoi comme soutien?
Et ensuite, ils nous ont bien dit que etc. Payer notre hébergement sur place, notre nourriture. Et après, voilà, si normalement c'est compliqué pour vous, vous pouvez venir prendre de remboursement avec le ticket. Donc, il y a des gens qui sont. Moi, pour ma part, je n'en avais pas besoin. Donc, voilà, c'est une forme de don aussi. Et voilà, ça dépend beaucoup. J'ai l'impression que c'est assez inégal en fonction des délégations. La délégation suisse, elle a récolté pas mal d'argent. Et c'est pas le cas pour la délégation italienne, par exemple, ou en Tunisie, ou comme ça. On l'a très bien vu qu'il y a des grosses disparités sur l'état des bateaux. Il y a énormément de bateaux. Voilà, les financements, c'est principalement les que la Malaisie, elle a donné 1 million, donc le gouvernement malaisien a donné 1 million à la flottille. Et ils ont envoyé que les Malaisiens à bord des bateaux. Donc voilà, ça c'est une partie. Donc, pas tous les dons à la délégation de cette flottille. Mais c'est que, ben voilà, quand j'ai perdu mon téléphone, puis j'ai perdu ma carte et mon cash, bah, certaines personnes m'ont payé à manger et de temps en temps je dis écoute, est-ce que j'ai besoin de 20 balles pour aller manger et voilà, ils m'ont payé mes repas parce que voilà, ils n'allaient pas chasser pour que je le fasse. C'est pas exactement ces personnes. Je pense que les gens vraiment.
Vous êtes combien sur votre bateau?
On est 10.
Ok. Il y a aussi vivre en promiscuité, c'est aussi un apprentissage. Aussi belles les personnes soient-elles et qu'on partage beaucoup de choses. Je ne sais pas comment ça c'est.
Ça c'est clair. Ouais.
On doit dormir, on doit entendre des ronfleurs, voire on ne dort pas. Enfin, l'image est un peu trouble, donc j'ai du mal à dire si tu es très fatigué ou pas, mais il y a quelque chose qui doit exister là. Qu'est-ce que tu te réjouis certainement de redormir dans un vrai lit chez toi? Je ne sais pas si tu es marié et tu as des enfants, mais j'imagine que...
Célibataire et sans enfants, mais je me réjouis quand même de retrouver un vrai lit. Après, bon, comme je disais, on n'est pas sur un des plus petits bateaux, ça reste un bateau confortable. Pour 10 personnes, il y a 6 lits, donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On tourne, on va pas toujours aller dormir dans le même lit. Quand on finit notre shift, on va prendre une place là où c'est libre. On ne sait pas à côté de qui on va dormir. Et oui, la promiscuité, on fait tous des efforts, on va dire. Parce que voilà, c'est forcément, là, ça fait 2 semaines qu'on est parti gentiment. Et donc, on essaie de limer un peu les tensions parce qu'on a tous des manières de fonctionner différentes. On a tous notre idée de ce qu'on apporte à cette petite. Ça peut créer un peu des tensions. Globalement, j'ai entendu sur le bâton.
Ah, il y a des rumeurs, de difficultés un peu plus accrues.
Je donnerai aucun nom, mais oui.
Mais oui,
mais ouais, je pense qu'il y a certaines personnes normal. Qui sont plus dures à vivre que d'autres. Quoi.
Oui, oui. Et puis, il faut enfin, un certain caractère pour se joindre à ce genre de projet hein, aussi. Donc, ces caractères, après, on ne peut pas juste les mettre de côté, les mettre à l'eau pendant un mois. Quoi. Je veux dire, c'est aussi ce qui fait votre force d'une certaine manière, de ne pas, pas vous laisser faire et de refuser l'injustice. Quoi.
Clairement, et les conditions sont pas. Voilà, on n'a pas pris de douche depuis plus de 2 semaines. Je me rappelle que quand on a fait le briefing avant le départ avec le capitaine, on a dit voilà, pendant toute la traversée, il n'y aura pas de douche. Si vous voulez vous laver, vous prenez de l'eau de mer et il n'y aura pas de douche. Et là, c'est un peu la surprise. Donc après, voilà, ça vient négocier. Mais est-ce que je peux juste avoir un petit peu mes cheveux?
Ouais, c'est ce genre de choses.
Ou voilà, ou des gens qui prennent des bouteilles d'eau potable.
C'est ça, la rescue chez vous, c'est piquer un petit peu d'eau pour se nettoyer les cheveux. On ne peut pas se nettoyer en allant dans l'eau, mais comme vous avancez, c'est pas possible d'aller dans l'eau. Mais si vous mettez, je sais pas, si vous mettez une corde, vous allez dans l'eau et puis après vous sortez, ça marcherait pas.
C'est compliqué. Il faut beaucoup de force pour le ramener. Après, c'est vrai que chaque fois qu'on a fait des pauses pour. Soit quand on a réparé les bateaux après l'attaque israélienne, soit quand on a dû faire des pauses techniques pour recharger le je pense que c'est un peu un con.
Ça rajoute, j'ai envie de dire, ça fait partie du paysage, mais c'est vrai qu'avec beaucoup de fatigue, avec la peur, avec l'appréhension, avec le poids de la cause, ça peut faire beaucoup. Et ce que vous faites là, c'est vraiment un sacrifice et un devoir pour l'humanité. Et moi, j'ai beaucoup de gratitude pour vraiment toutes et tous qui sont parties prenantes de ce projet. Je crois j'ai entendu dire qu'il y avait 26 000 volontaires. Et comme il y avait 50 bateaux avec un nombre de places quand même assez restreint, c'est pas l'envie qui manquait, mais effectivement, c'est les bateaux tout simplement. Donc, si ça se poursuit, mon espoir, c'était aussi que vous ouvriez une voie, qu'elle passe ou pas d'ailleurs, hein. Peut-être elle est plus près que la dernière, et puis que derrière, il y a un flux comme ça de flottis qui ne discontinue pas, mais le problème majeur, j'imagine, ça va être de se pourvoir en bateau, en structure, en fait. C'est ça le plus difficile.
J'ai un peu de la peine à imaginer comment est-ce qu'on va pouvoir, juste avec un mouvement citoyen, maintenir un corridor humanitaire ouvert. Parce que en fait c'est gigantesque j'espère que ça va falloir beaucoup de monde et beaucoup plus d'argent pour acheter des bateaux supplémentaires donc ils allaient couler Nous, notre aide humanitaire, c'est un peu dans l'eau. on va pas sauver toute la population
Tout
de
à fait.
Gaza avec
Mais ça fait une différence.
ce
Bien
nombre-là.
sûr, c'est tout petit, c'est tout petit. Je ne sais pas les résultats que ça aura, mais ça fait une différence. Et face à l'impuissance de faire une différence, aussi petite soit-elle, ben c'est la seule chose qu'on peut faire. Donc, c'est ce que je voulais dire. Vous avez entendu parler du plan de paix proposé par les débilos américains, notamment. Moi, je sais pas, tu as regardé un petit peu tout ça, vous dites quoi? Alors, pour moi, c'est très clair que ce n'est pas à moi d'en parler en tant qu'occidental, c'est évidemment les Palestiniens et les différentes factions de résistants qui existent qui vont devoir décider de quoi que ce soit, mais évidemment, c'est du grand n'importe quoi. En gros, ils sortent de leur conférence, puis Netanyahou, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, mais en gros, il dit non, mais en fait, vous inquiétez pas, ça va. Ça va pas se faire comme ça, on va pas partir, il y aura pas d'État. Non, vous inquiétez pas, de toute façon, il y aura pas d'État. Donc, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et de nouveau, il y a personne qui a du pouvoir en Occident qui semble être capable, ne serait-ce que ça, que de réagir face à ça. C'est aberrant. Moi, je me réjouis aussi, j'ai un petit peu un espoir par rapport à ça, au vu de la traction populaire. Derrière cette folie qu'on est en train de voir, je me demande comment les prochains candidats aux différentes élections dans le monde occidental vont faire pour garder une apparence de respect au vu de ce qu'ils auront fait ou pas fait, si tu veux, pendant ces 2 dernières années. Et là, mon espoir, c'est qu'il y aille, ben, que ça devienne un peu une ligne rouge quand on élit, si on continue à utiliser ce système qui ne fonctionne pas, de démocratie représentative, mais si on élit des gens, ben, ce sera facile de voir en fait ce qu'ils ont fait pendant ces 2 ans. Moi, j'ai un petit espoir par rapport à ça. Attends,
Il peut pas espérer.
reprends, là, on t'entend pas très bien. Attends, vas-y.
Comme ça, que en fait, il et s'en sortir encore. Que ça se retournera.
Oui.
Donc,
Je me demandais.
voilà.
Maintenant, vas-y, continue.
C'est assez difficile de voir que, en fait, ils doivent s'opposer à Israël, mais ils doivent s'opposer aussi aux États-Unis. Et on voit qu'en fait, l'Europe, la Suisse, ils se mettent à quatre pattes devant Trump, ils acceptent tout sans vraiment rechigner. Et en fait, j'ai l'impression que c'est mission
Non.
impossible de se battre contre ces deux. Mais j'ai
Non,
beaucoup espoir quand même quand je vois les mouvements citoyens et quand je vois le président de Colombie
ça vaut pas trop.
lever un mouvement.
Oui, donc c'est le premier.
J'espère qu'il y aura une révolution.
Gustavo Petro, c'est le premier là, et en plus, il l'a fait à New York. Donc il y a quand même une liberté d'expression aux États-Unis. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais. Dans les rues de New York, où il appelle à l'insurrection hein, pour créer une milice citoyenne armée en plus pour aller contrer Israël. C'est vrai que c'était assez audacieux. Et puis on va voir ce que ça donne. Il allait ouvrir une possibilité pour des volontaires colombiens de faire quelque chose. Ah, là, tout d'un coup, on a une image qui s'est clarifiée. Là, tu as
Ah,
du meilleur réseau et
super.
on te voit mieux. Bonjour.
Je vais faire mon plus beau sourire alors.
Ouais, alors là, on dit profite, parce que là, on est dans le top. Donc oui, des initiatives comme ça qui viennent à droite ou à gauche, qui peuvent donner de l'espoir. Ouais. Ah, du coup, tu peux peut-être nous montrer un peu le paysage, vu que là, on a un petit moment de bonne connexion.
Ouais, le paysage est très très bleu, vous verrez. Donc nous on est sur on va voir, je sais pas si vous voyez Alma, c'est le vaisseau Nectaire, et puis ici, une partie des voiliers, et puis tout au fond, là-bas, il y a encore des voiliers, et voilà, et mes colocataires pour ces deux dernières semaines.
Excellent. Alors voilà, ça a refrainé un petit peu, mais on a eu des belles images. J'espère que vous avez à manger, il faut être rationné avec l'eau aussi. C'est quelque chose, c'est des ressources qu'il faut utiliser, qu'il faut réfléchir. Ou il y a des gens qui vous rechargent. On a vu une vidéo d'un navire, c'était turc, qui a amené de l'aide humanitaire et a mangé de la nourriture aussi, peut-être pour l'équipage.
On a été rechargé par nous-mêmes. Disons que à la base, Alma, c'était le bateau qui s'occupait de recharger en fuel, en nourriture, en boisson. Maintenant, c'est devenu le vaisseau amiral parce que le vaisseau amiral a eu une panne moteur et on a dû le laisser en Grèce. Mais on a été rechargé en cours de route, ouais. Et donc, on n'a jamais eu besoin de se rationner au niveau de la nourriture. Je pense qu'on en aura plus qu'assez pour aller jusqu'à Gaza et pour revenir. À la base, le but, c'était d'avoir suffisamment pour aller jusqu'à Gaza et 4 jours supplémentaires, un truc comme ça. À ce niveau-là, on n'a pas besoin de se rationner, mais ça tourne un peu en boucle. On voit que c'est des, en tout cas pour notre part, que c'est des Italiens qui ont fait les courses. Il y a foison de pâtes et de sauce tomate. On a malheureusement, mais après ça c'est la vie sur les bateaux, on n'a pas beaucoup de légumes ni de fruits. C'est quasiment voilà, que des conserves et des aliments secs. Donc voilà, c'est vraiment une chose, je me réjouis aussi, c'est de pouvoir remanger autre chose que des pâtes sauce tomate basiques.
Vous pêchez ou... On a vu des vidéos aussi avec des dauphins. Enfin, il y a évidemment une vie marine, mais je ne sais pas si évidemment on peut avoir ce genre d'occupation quand on est en route.
Oui. Nous, on a. Je vois à peu près tous les bateaux, ils ont une ligne de pêche. C'était un peu plus compliqué au niveau des appâts. Donc, nous, on a essayé de pêcher un peu. Après, quand on a. Mais on n'avait pas d'appât, donc j'ai essayé de fabriquer quelque chose avec un bout de corde. Et de détacher les petits filaments pour que ça fasse un peu comme des petites tentacules. Mais c'est sans succès. Et puis récemment, on a pu récupérer des appâts de pêche. Mais bon, on les a perdus parce qu'il y a un bateau qui a coupé derrière nous et qui n'avait pas vu la ligne de pêche. Et donc, ils ont tout arraché. Donc nous, on n'aura pas de poissons, mais certains autres bateaux nous ont envoyé des photos avec du thon. Avec de l'espadon qu'ils avaient réussi à pêcher. Donc c'est possible. Voilà. Nous, on n'a pas eu cette chance, mais c'est possible.
Bon, après, il faut encore découper, éventuellement le cuir, enfin la traiter. Il faut aussi. Je ne sais pas, vous avez une cuisinière dans le bateau, un gaz?
Oui, on a une cuisinière à gaz et puis on a des assez bons cuisiniers à bord. Donc en vrai, on a assez bien mangé. C'était assez chouette. Avec des influences turques, malaisiennes, italiennes, espagnoles. Non, ça va. Et on se réjouissait de pouvoir pêcher un poisson. On avait gardé exprès une orange qu'on voulait utiliser pour cuisiner un poisson. Mais voilà. On a décidé de la manger. Ouais.
Mais écoute, quand tu rentres ensuite en Suisse, je t'invite volontiers pour une raclette ou une fondue.
Tu l'auras bien. Avec grand plaisir.
Excellent. Ok, alors programme de la journée, continuer à avancer, j'imagine. Il y a un risque que l'intervention arrive de jour. Moi, j'imaginais que ce serait plutôt quelque chose qu'ils veulent faire le plus dans l'ombre possible, et puis que s'il se passe quelque chose, c'est plutôt la nuit qui opère, évidemment.
On ne les a jamais vus de jour. Et sur toutes les anciennes flottilles, ils ont toujours attaqué de nuit. Donc ici, tout le monde s'attend à ce qu'on soit attaqué la nuit qui vient, parce que c'est la dernière nuit qui nous sépare de Gaza. Après, on n'est jamais à l'abri d'une attaque un peu plus tôt, mais tout le monde pense ici que ça va être cette nuit. Et moi aussi, je pense que ça va être cette nuit. On ne sait pas encore trop comment est-ce que ça va être fait, parce que on est quand même beaucoup de navires et certains experts ont fait les calculs de savoir combien est-ce qu'ils avaient de navettes d'intervention rapide, combien est-ce qu'ils avaient de commandos et qu'ils ne pourraient pas prendre tout le monde en une nuit et nous ramener jusqu'en Israël. Mais il y a la possibilité qu'ils apprêtent un gros navire de guerre et puis qu'ils nous prennent tous un par un et qu'ils nous mettent sur le navire. Ensuite, ils nous amènent tous ensemble en Israël. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas, on sait juste qu'on va passer probablement une deuxième nuit de merde là. Donc voilà, pour moi, le programme de la journée, ça va être bah là, une fois qu'on a fini, je vais aller faire une sieste. Peut-être que je vais manger un truc avant, je ne sais pas s'ils sont déjà en train de cuisiner ou pas. Mais après, je vais faire une sieste et essayer d'être en forme pour mon shift qui reprend juste avant le coucher du soleil. Et puis pour pouvoir endurer cette nuit, quoi. Probablement qu'on va pas du tout dormir de la nuit parce que s'ils viennent nous intercepter, le temps qu'ils nous amènent jusqu'à Israël et tout, on pourra pas dormir. Sur les anciennes missions, ils ont laissé dormir personne pendant le trajet depuis l'interception jusqu'à Israël. Ils ont laissé dormir personne en prison. Donc voilà, privation de sommeil, torture psychologique et tout ça. Donc, voilà,
Donc c'est
prendre des forces un
important.
peu maintenant, quoi.
Ouais, c'est ça. Là, il y a vraiment une image qui est bien, hein, ça passe bien. Dommage que pendant la première 45 minutes, c'était très, très, très saccadé, mais c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Je me posais la question, est-ce qu'il y aurait moyen de, à un moment donné, passer par le territoire égyptien? Parce que c'est plus difficile pour Israël de vous intercepter en Égypte, mais ce serait peut-être du coup l'Égypte qui vous intercepterait.
Ben, moi, je suis pas dans tout ce qui est dans le comité directeur, donc j'ai pas toutes les infos. Mais je sais qu'ils étaient très réticents, par exemple, à passer par les eaux territoriales grecques, parce que les Grecs ont saboté les précédentes flottilles. Donc ils avaient peur, et sauf que le gouvernement grec est complètement pro-israélien. Et donc on y allait parce qu'on n'avait pas d'autre choix pour réparer nos bateaux. Finalement, je pense qu'ils ont dû avoir un peu peur des manifestations, donc ils nous ont laissé repartir. Mais on a quand même eu pendant 2 jours d'affilée des contrôles des gardes-côtes intensifs et tout, voir si tous les papiers étaient en ordre, les bateaux, etc. Et pour l'Égypte, en fait, la marche pour Gaza a été stoppée par les autorités égyptiennes. Donc je pense que le comité directeur n'a pas voulu prendre le risque de repasser par le territoire égyptien pour aller à Gaza. Et ça, c'est que mes suppositions parce qu'on a, j'ai pas de version officielle là-dessus. C'est assez compliqué, hein, parce que enfin, je crois que le président égyptien, il est très très mal vu du reste du Maghreb, justement pour sa complicité avec Israël dans ce génocide. Il y a pas très longtemps, ils ont signé un très gros contrat de livraison de gaz pour l'Afrique qui devra passer par l'Égypte, etc. Je pense qu'ils ont leur raison de ne pas être passés par les eaux territoriales égyptiennes.
Alors là, on met un peu pendant cette heure la loupe sur toi, sur ce bateau, mais évidemment, on n'oublie pas Gaza. Hein. Le but, c'est pas du tout de se grosser de l'expérience, parce que les critiques malveillantes venaient souvent dire voilà, vous faites un peu la croisière s'amuse. Alors, ben, toi, tu as un solide gaillard, mais effectivement, c'est pas facile tous les jours. Mais au-delà de ça, alors, bien sûr qu'on n'oublie pas que. La cause, enfin, ce que vous essayez de faire, c'est bien d'ouvrir quelque chose qui aujourd'hui est traversant, c'est-à-dire ce blocus, briser ce blocus complètement ahurissant. D'ailleurs, dans ce nouveau plan de paix qui a été fourni, à mon avis, ils sont tellement incompétents qu'ils ne se sont pas rendus compte. Mais ils ont dit, si le Hamas venait à accepter et à signer ce plan de paix, nous ouvririons alors l'aide humanitaire de manière ouverte et continue, donc full. Mais en disant ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'actuellement, ils bloquent l'aide humanitaire. Donc en fait, ils viennent de prouver qu'ils sont en train de commettre un génocide. Et c'est hallucinant de les entendre dire ça comme ça, quoi. Voilà, je sais pas ce qu'on a pensé là, de cette.
En fait, ils se cachent de plus grand-chose. Hein. Il y a des vidéos de je ne sais plus quel ministre israélien où ils annoncent clairement qu'il y a tout un aspect financier derrière, hein, où ils espèrent qu'ils pourront se partager les revenus de leur nouvelle Riviera Gazaoui avec Trump, parce qu'eux aussi ont dépensé beaucoup d'argent dans cette guerre. Donc, Donc, ils n'ont vraiment aucune honte. Ils disent que le droit international ne s'applique pas au peuple élu. Donc, franchement, ça me surprend. Et tout le monde sait de camions qui sont bloqués à la frontière, d'Israël qui pille les camions. Il y a même des vidéos de militaires israéliens qui sont en train de dire: Ah, merci l'ONU pour toute votre aide. Ça m'aide à manger, ou je sais plus ce qu'il dit. Voilà. Ils ont vraiment aucune honte et aucune limite. Et je trouve ça hallucinant que ça fasse pas plus réagir que ça les gouvernements de par le monde.
Impunité, impunité, impunité. En fait, c'est ça le problème, un des fonds du problème, c'est que depuis le début, Netanyahou, ben, et son gouvernement, mais pas que lui, hein, c'est toute la société israélienne, hein, selon moi, ils se permettent des choses qui défient toute convention ou loi qu'on avait construit ou co-construit depuis des décennies, et puis qu'il n'y a jamais eu de conséquences. Donc, à partir de là, que tu peux get away with, hein, tu peux t'en sortir à bon compte, pourquoi pas continuer puis faire une surenchère? Et finalement, c'est exactement ce qui se passe, et comme tu le dis très bien, maintenant il se cache plus de rien en fait. Il dit ouvertement, alors que tous les États occidentaux disent nous on veut une solution à deux États, puis le principal concerné, il dit non, mais en fait il n'y aura jamais d'État palestinien, mais ça passe quand même, il n'y a pas de problème. C'est
Ouais.
absolument fou.
Je pense qu'on voit aussi un peu les limites de l'ONU et du droit international, de la Cour pénale internationale, parce qu'en fait, il suffit de taper fort son poing sur la table et tout tombe à l'eau, quoi. Il y a l'entièreté de l'Assemblée des Nations Unies qui vote pour envoyer l'ONU en Palestine pour rétablir la paix, et hop, une main se lève, c'est les États-Unis avec un droit de veto.
C'est horrible, c'est
Aujourd'hui,
lamentable.
ça n'a plus lieu d'être, quoi. Ça devrait être aboli.
Ouais. Je crois que c'est le président finlandais qui avait dit qu'effectivement, il n'aurait pas y avoir le droit de veto. C'est bien de dire des choses qu'on sait tous depuis longtemps, mais ces images aussi, moi, je me dis, mais le karma, l'âme, ou peu importe ce que tu crois par rapport à la spiritualité, mais quand je vois ces gens lever la main, je me dis, mais ils sont l'inconscience telle, une personne. Qui finalement, une personne finalement décide du massacre de dizaines, de centaines, de milliers, de l'effacement d'un peuple. Et aujourd'hui, on en est arrivé là. On a un monde qu'on prétendait libre et décent et civilisé. Et on a ça, quoi. C'est traumatisant, presque.
C'est triste. Ouais. Ouais, c'est
Il y a le
triste et
seul.
ouais.
Vas-y. Non, non, mais c'est triste.
Bah, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé si j'avais pas peur de mourir en partant là-bas. Et j'ai toujours dit que non, j'avais pas peur de mourir parce que je pense pas que Israël a intérêt à nous faire tuer. Mais il y a quand même une chose où je me suis dit que, en fait, si on devait mourir dans cette mission, eh ben, c'est que le monde aura failli et je suis pas sûr d'avoir envie de faire partie de ce monde-là. D'un monde où en fait on abandonne tout le monde, quoi, juste pour s'en foutre plein les poches. Ouais, je trouve que la réalité du monde depuis quelques années est vraiment, vraiment difficile avec Trump, avec ce génocide, avec plein de choses qui se passent à travers le monde. Ouais, franchement, ça me rend triste. Et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, quoi. Parce que j'ai pas. C'est grandement pour la Palestine, mais c'est aussi un message pour dire en fait, basta. Faites n'importe quoi. Les gens, ils ont.
Ouais, comment ça va? L'encontre des valeurs les plus fondamentales qu'on prétend avoir, mais qui sont galvaudées à la première occasion, et ce, de manière tellement évidente aujourd'hui qu'effectivement, c'est plus acceptable. Je vois aussi là, je ne sais pas si, comment tu es connecté aux affaires du monde, ça a l'air d'être le cas, mais au Maroc, bah, il y a le Népal, après, pour voir s'il y a des forces aussi à l'international, on ne sait jamais, mais. cette génération Z qui semble pas accepter le status quo. C'est aussi intéressant. C'est eux qui, sur les réseaux sociaux aussi, là, on va voir, parce que avec TikTok, et enfin, tout, les puissants, et Netanyahou l'a bien compris, que ils étaient en train de perdre la guerre de l'information. Mais je ne suis pas sûr qu'ils soient assez brillants ou qu'ils comprennent exactement les enjeux là derrière et qu'ils arrivent à juguler en fait la transmission des vérités, hein, c'est-à-dire des horreurs qui perpétuent au quotidien, à la nouvelle génération qui semble être beaucoup plus sagace, hein, c'est-à-dire beaucoup plus capable de comprendre qu'on les arnaque, si tu veux.
Ouais, mais franchement, je crois que c'est difficile de savoir ce qu'il pense et ce qu'il peut faire. J'ai vu récemment, et il a dit que c'était très important, il a fait une réunion avec des influenceurs israéliens et que c'était très important de continuer la propagande israélienne. Et récemment, il y a eu la scission de TikTok avec le rachat aux États-Unis de TikTok, d'une partie de TikTok, pour le séparer de TikTok Chine. L'actionnaire majoritaire, c'est le plus gros investisseur privé de l'armée israélienne. Donc, ça veut dire ils sont bien au courant qu'ils ont besoin de mettre la main sur des réseaux sociaux, sur les médias et tout ça pour pouvoir continuer leur propagande.
Clairement. Mais je crois quand même qu'ils sont en train de la perdre. De ce point de vue-là, je pense qu'ils ont perdu la guerre d'information. Alors peut-être si tu es en Israël, tu t'en aperçois pas, mais je pense que si tu es à l'étranger, tu t'en aperçois. Après, j'ai toujours peur que je sois dans une espèce de bulle algorithmique qui me laisse penser que ce que je côtoie, finalement, ça représenterait le monde. Alors qu'en fait, eux, il y a peut-être tout un monde qui est dans une autre bulle algorithmique qui pense complètement le contraire. Et puis, donc, il y a aussi de ça qu'il faut être vigilant. Attends, attends. Attends, 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 attends. Depuis que tu as commencé à parler, attends. Là, on n'a rien entendu. Mais vas-y, réessaye maintenant.
Qu'est-ce que tu disais? Je disais que oui, effectivement, il doit y avoir des sortes de bulles, parce que ben, depuis que je suis parti, forcément, il y a pas mal de gens qui m'ont écrit et qui, eux, reçoivent beaucoup de propagande israélienne. Et moi, pas du tout. J'ai vraiment que du contenu, j'ai pas envie de dire pro-israélien, mais anti-génocide, quoi, anti-occupation. Donc, oui, je pense qu'il y a des bulles en fonction ben, voilà, des algorithmes, ensuite.
Ouais, j'espère que du coup la génération Z va faire exploser en fait TikTok parce qu'ils ont quand même dû dépenser des milliards. Hein. Et j'ai vu ce matin aussi que les Israéliens, pour payer les influenceurs, ils leur payent entre 6 000 et 7 000 dollars par poste. Donc à ce rythme-là, je ne sais pas si tu peux tenir sur la distance aussi. Enfin, la désinformation, ça coûte cher. Et derrière, tu as une génération entière et de plus en plus le monde en général qui partage, s'enquiert, reconnaît l'humanité là où elle est et là où elle n'est pas. Et on informe son voisin. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une marche que tu peux arrêter. Mais je peux être naïf par rapport à ça.
Ouais, bah ouais. Après, il faut avoir aussi un peu d'optimisme. Moi, je crois que je suis assez optimiste. Et ça fait depuis le début de ce génocide que je me dis que là, Israël, ils ont mis leur premier pied dans la tombe. Ça me rend triste de voir que ça prend aussi longtemps pour que ça s'arrête. Je suis persuadé que tout ce qu'ils sont en train de faire à la Palestine, ça va se retourner contre eux et qu'ils s'en relèveront pas ce qui est en train de se passer.
Qu'est-ce que vous amenez dans vos cales pour les Palestiniens, pour atténuer une goutte dans l'océan, mais pour atténuer la souffrance des Palestiniens, nos frères, nos soeurs palestiniennes? t'entends plus de nouveau. Attends, ça va revenir. Sinon, c'est les vagues de.
C'est ça.
Ah, là,
Là, tu
c'est bon,
m'entends?
on t'a retrouvé.
Ok.
Ouais, c'est bon.
Ouais, je disais que la majorité de ce qu'on apporte, c'est du lait maternel
Ouais.
et du matériel sanitaire.
Ok. Ouais. Et le lait maternel, ça, c'est aussi encore une admission d'un truc indicible et qui reflète clairement la volonté génocidaire derrière les actes, puisque faire en sorte que la nouvelle génération ne puisse pas se nourrir, c'est la définition même de la définition d'un des critères de la définition du génocide, c'est-à-dire évidemment ne pas permettre à un peuple de vivre dans la dignité et des enfants de simplement naître dans la sécurité et dans la capacité de survie, quoi.
Ouais. Non, en fait, c'est horrible sur toute la ligne, hein, ce qui se passe là-bas. Je crois que personne ne peut humainement défendre quoi que ce soit qui est en train de se passer là-bas.
Bon, je crois que tu vas devoir quand même aller te coucher puisque tu auras un shift qui va revenir. Et puis là, c'est super important de pouvoir être en pleine possession des forces qui vous restent pour un événement qui devrait arriver, c'est-à-dire l'intervention des terroristes prochainement en eau internationale. Et je pense fort à toi. Depuis que là, on a commencé l'émission, hein, je te parlais de cette caméra. Et bien maintenant, figure-toi qu'il y a plus de 833 000 personnes en direct qui regardent les bateaux. Donc ça monte très vite. Je pense que d'ici 2 ou 3 heures, on sera à 1 million. Et il y a de fortes chances que ça monte. Et là, il se passe quelque chose. Merci d'en faire partie. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on te laisse?
Très vite, parce que j'ai quasiment plus de batterie, on est assez restreint sur l'électricité. Mais en tout cas, j'ai envie de remercier toutes les personnes qui me soutiennent, mais surtout qui soutiennent le mouvement et la Palestine. Je trouve que ça fait chaud au cœur. Et aussi dire merci aux gens qui tiennent à moi de m'avoir laissé partir et de pas me harceler pour que je rentre. Donc, merci beaucoup. Et puis merci pour ce live. Ça va être dur les prochaines heures, mais on se voit bientôt, je pense.
Jérémy Chevalet, merci infiniment. Bonne suite de brisage de blocus, on ne peut pas dire autrement. Bonne suite de projet humaniste. En tout cas, on est là, on ne vous quitte pas des yeux. Et puis, à la prochaine.
Merci, à bientôt. Ciao.
Salut, ciao.